Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Chute libre aujourd'hui est consacrée au marché de la poésie de Paris, qui se trouve place Saint-Sulpice, qui a lieu tous les ans depuis 42 ans maintenant, je crois. C'est ce que m'a dit en tout cas la très charmante attachée de presse Nelly Mladenov, qui m'a envoyé un certain nombre d'éléments factuels sur le marché de la poésie. Le marché de la poésie est donc un grand marché qui est consacré essentiellement à la poésie, à la littérature et à la poésie. Je dis à la littérature parce qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui ne sont pas forcément stricto sensu des éditeurs de poésie, mais qui sont là parce que leurs textes voisinent ou sympathisent ou s'accrochent correctement à la poésie telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui. À peu près 500 éditeurs de revues et de poésie se retrouvent chaque année, place Saint-Sulpice, c'est une des rares places italiennes de Paris, donc juste devant le parvis de Saint-Sulpice, l'église. Il y a des centaines de poètes et plus de, en gros, 50 000 visiteurs par an qui viennent du mercredi jusqu'au dimanche soir acheter des livres de poésie, échanger, rencontrer les auteurs, puisqu'il y a de nombreuses signatures, je crois qu'il y en a 400 cette année, d'auteurs dans des stands. Donc c'est des stands qui sont placés les uns à côté des autres, sous le soleil quand il y en a et sous la pluie quand il n'y en a pas. Mais cette année, il y a du soleil. C'est un très bel endroit, très vivant, où on constate que la littérature française et la poésie principalement sont des disciplines qui ne sont pas du tout moribondes. Il y a énormément de revues, énormément d'éditeurs, énormément d'écrivains, de poètes, de gens qui s'intéressent à la poésie autour de la très belle fontaine au milieu de la place, dans un endroit qui est tout à fait charmant. Il y a même un bistrot, il y a plusieurs bistrots autour de la salle, entre autres le café dit de l'Amérique, qui est une espèce de mythe où tout le monde va faire des lectures, boire un verre, essayer de trouver une place puisqu'il n'y a pas de place. Enfin bref, donc en dehors du marché de la poésie, qui est très important, il y a la périphérie du marché de la poésie dont au cours de l'émission on parlera, puisque le marché de la poésie organise dans toute la France des rencontres de poésie ou de lecture, ou quelquefois même de théâtre, mais plus précisément de poésie, dans divers endroits, et organise un certain nombre d'activités dont on parlera tout à l'heure. Alors aujourd'hui, moi, je reçois une éditrice, Françoise Elian, pour les éditions Tango Girafe. Bonjour Françoise.
Bonjour Paul.
Un poète, Anas Laili, qui est franco-palestinien, enfin qui est palestinien mais qui parle français, que je connais depuis un certain temps déjà, et qui est, c'est important pour nous de t'avoir, en dehors du fait que c'est un plaisir d'avoir un poète de qualité autour de cette table. Mais il y a le marché de la poésie cette année, et l'invité d'honneur, c'est la Palestine. Voilà. Donc tu représenteras toi-même, mais tous les autres aussi. Et puis Léon Poirier, qui a plusieurs casquettes, même oui, pas mal de casquettes, puisque vous êtes écrivain, je crois. Vous êtes libraire chez la librairie Chan, et vous animez une revue qui s'appelle, qui a un nom amusant, qui s'appelle Congre.
Absolument.
Revue de poésie. Voilà. Donc, et donc, le simple énoncé de vous tous montre à quel point le marché de la poésie est un lieu de diversité. Voilà. Donc, on va peut-être commencer par discuter un petit peu de la poésie palestinienne. Qu'est-ce qui pourrait, Anas, caractériser la poésie palestinienne?
Je crois que, Paul, ce qui peut le caractériser, c'est son rapport à la politique, dans le sens où les simples choses banales du quotidien peuvent prendre une dimension tragique ou une dimension qui évoque les espoirs ou qui évoquent en tout cas des sentiments forts quand il s'agit de choses banales qui sont impactées par le contexte politique, dans le sens où dans une réalité d'interdiction et aussi de blocage, de souffrance, les toutes choses vraiment simples qui peuvent être une évidence dans une vie normale peuvent prendre une dimension différente, en tout cas dans le contexte, dans la poésie palestinienne. Donc c'est pour ça qu'on voit que cette poésie est toujours obsédée par ces petites choses, des choses dont l'homme a besoin pour exister dans son quotidien.
Anas, vous avez apporté un ouvrage de poésie. Est-ce que ça vous serait possible de nous lire un extrait, justement?
Dans ce sens,
par exemple, pourquoi alors, pas
ça sera plutôt dans ce cas. C'est vrai que peut-être le mieux toujours, quand on parle de la poésie, c'est de lire. Alors, je vais donc lire en arabe. Et je vais lire un extrait et puis je te passe
l'extrait. Oui, volontiers.
دعسات في شارع ضيق البلد الذي تضاء على مثل غيمة صيف سيتناثر عما قريب مخلفا بقعا صغيرة على الخارطة ستعض أطرافه بأسنانك مليا بأظافرك النابية وتشده إلى عظام القفص الصدري علّه يتسع لرقصة جماعية لمشوار صباحي بحثا عن الأكسجين أو لسباق رياضي مرتجل علّه يكفي لدرس سياقة لدعسة بنزين جريئة أو لزيارة جبلية في ربيع قادم البلد الذي سيتلاشى من تحت قدميك كحفنة تراب في الهواء ستزرعه بأشجار زيتون جديدة وبتلات لوز وخروب لتذهب في التراب عميقا. Donc il s'agit d'un extrait et je vais te donner donc le texte en français et comme je dois le regarder ici. Donc promenade. Est-ce que alors c'est lequel coup d'accélérateur? C'est 27. Voilà. 27. Bon,
tu as rajouté 27.
27.
D'accord, très bien. Ça s'appelle coup d'accélérateur dans une rue étroite.
Tout à fait.
Et c'est issu d'un ouvrage qui s'appelle Danser d'une seule jambe, qui est publié au Merle Moqueur, la maison de la poésie de Rodin, et qui vient de sortir. C'est tout frais, alors.
Et tout frais.
Là, c'est un accélérateur récent.
Tout à fait.
Le pays qui a rétréci comme un nuage d'été se dispersera bientôt, laissant de petites taches sur la carte. Tu en mordras les extrémités avec tes dents, tes ongles acérés, en le tirant vers les os de ta cage thoracique, espérant qu'il suffise pour une danse collective, pour une promenade matinale en quête d'oxygène ou pour une compétition sportive improvisée. Espérant qu'il suffise pour une leçon de conduite, pour un coup d'accélérateur audacieux ou pour une escapade en montagne au printemps prochain. Le pays qui s'évanouira sous tes pieds comme une poignée de poussière dans l'air, tu le planteras de nouveaux oliviers, de boutures, d'amandiers et de caroubiers pour qu'elles s'enfuissent loin de la terre. Mais tu n'en trouveras pas le nom dans les dictionnaires, ni dans les guides de voyage. Tu le verras dans de vieux registres, des photos sur le mur, avec des noms et des symboles que plus personne ne consulte. Ça m'évoque une problématique très récente, je crois, dont on parle. C'est le problème, si j'ai bien compris, de la possession des terres en Cisjordanie. Donc je sais qu'il y a eu des mouvements très récents à ce propos et que il y a vraiment une problématique très profonde de pouvoir retrouver ces terres et de pouvoir les enregistrer, qu'il y a un vrai débat politique et conflit politique sur ce sujet juste en ce moment.
Je pense que partout en Palestine, cette question se pose, c'est la question de la terre et donc en Cisjordanie, tu as tout à fait raison. Actuellement, donc la colonisation n'a jamais arrêté, et ça a été toujours le cas bien avant et après les événements et après le génocide et après tout. Donc ça a beaucoup accéléré depuis un moment en Cisjordanie et on voit que ce rapport à la terre, c'est assez... C'est quotidien dans la vie de Palestiniens.
Non, ce que je voulais souligner, je voulais évoquer ce problème, c'est qu'on croit toujours que le rapport à la terre ou la guerre ou l'occupation ou la colonisation, c'est violent, mais ça se traduit aussi dans des actes juridiques pas, et que ces actes juridiques ont des effets dans le temps très profonds et très longs, et que le conflit n'est pas toujours un conflit physique, c'est aussi quelquefois un conflit juridique.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais juridique dans le sens où c'est que aujourd'hui il y a des associations, des gens de aussi qui essayent de porter ça et de faire de protestations contre cette liberté toujours de mettre la main sur la terre des autres aussi facilement. Et moi, en tout cas, en tant que Palestinien, je vois que mon rapport à la terre, c'est charnel, c'est corporel, c'est physique. Et pour moi, je sais que je suis le fruit de ces terres et que ces terres, c'est ma mère dans le sens physique de terme. Mais ce combat, c'est plutôt politique, juridique et politique. Comment pouvoir... arrêter tout ça et pouvoir exister.
C'est-à-dire qu'on dit très souvent aussi que les règles juridiques sont le reflet des règles physiques, c'est-à-dire de ceux qui ont pouvoir.
Oui, tout à fait. C'est le pouvoir, tout à fait.
هون شو صاير هون انهيار وكم حب يوم يوم ورا يوم بستجوب التليفون قتيل بغرفة النوم كل يوم بروفت قتل هون مش قادرة افصل خلاص خلص الحكي هون ارض صغيرة وجرح كبير ناس تضل ناس تضل وناس تغير غيب وسط الصالون غيمة حزن معي هون هزت بدن والتلفزيون خلص خلص الحكي هون أرض صغيرة جرح أرض صغيرة جرح كبير ناس
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et bien sûr, Chute Libre aujourd'hui dédiée au marché de la poésie de Paris, place Saint-Sulpice. Je reçois Françoise Elian pour les éditions Tango Girafe, Anas Al-Naïli, poète palestinien, pour son œuvre et pour représenter tous ses camarades poètes qui vont venir, puisqu'ils sont tous invités au marché de la poésie de Paris qui commence aujourd'hui, et Léon Poirier pour la revue Congrès et pour ce qu'il écrit aussi. Alors, on vient d'entendre, Anas, Yasmine Hamdan, qui est c'est une chanson magnifique, mais je crois qu'une partie du texte, en tout cas, est ton œuvre, c'est toi qui as
écrit
ça.
Tout à fait, je suis aussi à côté de mon travail de poète, c'est aussi parolier. Donc j'ai écrit aussi, j'ai travaillé avec plusieurs musiciens arabes, comme Yasmine Hamdan, qui est chanteuse libanaise, et il y a aussi Mohamed Najem Adil Salamé. Et donc, cette chanson, on l'avait écrite ensemble.
Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Alors, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle parle d'aujourd'hui. Et comme elle est libanaise et moi, je suis palestinien, donc, qu'il y a des destins qui se croisent. Et donc, il fallait que... En plus, moi, j'apprécie son travail. Elle aussi, c'est la raison pour laquelle on se retrouvait... Et donc, j'ai écrit la chanson avec elle.
D'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'a... Tu m'as dit, dans Off, qu'elle a un peu travaillé avec toi aussi le texte. Elle a voulu que tu rajoutes des choses.
D'expérience, en tant que, je peux te dire, c'est toujours différent le travail avec le musicien. J'ai jamais travaillé avec un musicien en lui donnant un texte et qu'il l'a pris en entier. C'est toujours un musicien, il va enlever une partie, j'assume ce que je dis, il va jamais prendre le texte en entier. Mm-hmm. Parce qu'il y a toujours un rythme musical, il y a toujours un travail musical autour de texte qui fait que... Et il a d'autres priorités artistiques, on va dire, autour de texte, donc il ne va pas vraiment... Et donc, avec Yasmine, c'était très intéressant, parce qu'il prenait juste une petite phrase, il rajoute, vous voyez, on parle, il met deux... Et donc, on était vraiment... C'est écrit à deux. Et j'ai jamais travaillé comme ça avant. Donc, ah. C'est quelqu'un qui prend son temps... pour travailler, c'est comme il explore chaque mot, son ombre, son rythme, et après elle ça a pris presque un an. Mm-hmm. Le travail sur la chanson, et donc avec les autres c'était différent. Soit
en tout cas le résultat est magnifique, je trouve. Merci beaucoup.
Je suis très fier de ce travail avec elle.
Et je comprends. Et alors les poètes et poétesses palestiniennes qui viennent cette fois-ci, qui sont-ils?
On était à la base 12 poètes.
Oui.
Et il y a certains qui ne peuvent pas venir à cause de la guerre actuelle. Leurs avions ont été annulés. Je peux dire, c'était le nom de certains. C'est Hind Jodeh, Nida Younis, Jamana Mustafa, Asma Azaizé, Raed Wahsh. Aussi, il y a aussi Najwan Darwish, il y a aussi Marwan Mahoul, et il y a, je pense, il y a Tarek aussi, Tarek Hamdan, que tu connais.
Oui.
Voilà, il y a moi aussi. Et donc, oui. On est invité, et donc avec Abdelatif Elhabi qui orchestre l'événement.
C'est ça, avec beaucoup d'appoint de Tariq aussi, je
tout
crois.
Tout à fait. Il y a aussi Rassan Zaktan, que tu dois connaître. Et Rassan Zaktan ne peut pas venir. Asma Azaizé ne peut pas venir parce qu'ils viennent de Cisjordanie et les avions s'étaient annulés. Le choix de ce poète était en effet de représenter la diversité de la poésie palestinienne, parce qu'il y a certains qui viennent de l'intérieur, il y a d'autres qui viennent des diasporas, il y a des générations différentes, il y a aussi hommes, femmes, presque moitié-moitié. Mmh. Donc il y avait plusieurs critères qui été prise en compte pour choisir les poètes.
Voilà. Alors justement, au marché de la poésie, il y a plusieurs présentations de la poésie palestinienne. Il y aura sur le forum, enfin sur le, je ne sais pas comment ça s'appelle, le théâtre, espèce de théâtre à l'intérieur du marché, oui. Des présentations et des lectures. Donc effectivement, si on veut se faire une idée de la tête, à l'oreille aussi, oui. De ce qu'est la poésie palestinienne, eh bien, il faut venir au marché de la poésie jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà.
Tout à fait, exactement. Il y aura des signatures, des lectures, il y aura aussi des rencontres libres même, il y aura aussi juste des discussions avec une traduction spontanée parce que en français.
Très bien, mais merci beaucoup.
Merci à toi, Paul.
Ouais, on va peut-être se tourner vers Françoise Elian et la maison d'édition Tango Girafe. Alors, c'est pas la première année que vous venez au marché de la poésie, je crois.
C'est la troisième année.
Troisième année, voilà. Qu'est-ce qu'un éditeur normal, de poésie normale, si ça existe, peut trouver au marché de la poésie? Qu'est-ce qui...
Beaucoup de choses. Et d'ailleurs, beaucoup de choses très, très surprenantes. Le marché de la poésie, c'est effectivement tout d'abord un lieu de rencontre avec des lecteurs, et je dirais beaucoup de lecteurs très curieux. Pour moi, c'est le mot qui me vient spontanément à l'esprit. Il y a un esprit justement du marché de la poésie et qui semble être communément partagé par et à la fois les éditeurs, les auteurs, mais également le public. Il y a une très grande générosité, je trouve, et qui contraste presque avec la géographie du lieu. Ça pourrait presque passer inaperçu si on passait comme ça dans la rue. Et dès qu'on y entre et d'ailleurs, à travers des toutes petites entrées, on y trouve une diversité, un foisonnement, un accueil. Finalement, c'est à peu près l'anti-image de la poésie, telle qu'on peut se la représenter d'un point de vue extérieur et rapide.
C'est-à-dire que la poésie n'est pas nécessairement quelque chose, les petites fleurs, comme on dit.
Absolument pas.
Ou quelque chose de... forcément glamour, amour, douceur, charme, nature, ça l'est aussi d'ailleurs, mais c'est pas ça dont on parle. Oui. Et ce que Anas disait tout à l'heure très justement sur la poésie palestinienne, c'est-à-dire que c'est une poésie qui s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui et aux éléments concrets de la vie qu'on distingue mieux ou plus mal quand on est dans la difficulté d'exister, mais que ces éléments sont concrets. Et la poésie a aussi une mission, je ne sais pas comment dire, mais une mission de donner à lire le monde, voilà, à lire et à entendre. Alors, j'ai regardé un peu les éléments concernant votre maison d'édition. Mm-hmm. On parle de vous, on dit que vous êtes forte et fragile, élégante et sauvage, vous affûtez une fine pointe d'âme aux aguets, vous travaillez votre intuition sans peur de rater, sans peur de réussir non plus, car votre moteur est le désir, et c'est parce qu'il ne faut pas s'y fier qu'on peut lui faire confiance. Du conseil en gestion et en stratégie, de l'amour irraisonné de la poésie, on bascule dans ce pourquoi les fées s'étaient penchées sur le jeune berceau il y a une trentaine d'années, présage d'une vie d'aventure. Eh bien voilà, on n'imagine pas forcément que quelqu'un qui est féru et compétent en conseil en stratégie et en gestion soit éditeur de poésie. Voilà. et donc, c'est tout à fait intéressant et remarquable. Mais dites-nous un peu plus sur Tango Girafe, cette maison d'édition.
Tango Girafe, c'est un projet de l'intime et de l'intuition, et je dirais de la bascule et de l'irrépressible. Il y avait quelque chose, je ne pouvais pas faire autrement. Et d'ailleurs, la manière dont c'est construite, la maison d'édition, ça a été vraiment en suivant justement mon désir, me posant vraiment cette question, mais finalement, au-delà de créer... une forme de coquille de maison d'édition, qu'est-ce que je souhaite vraiment publier. Et là, ça a été un vrai vertige de me dire, mais en fait, j'ai face à moi l'infini, par quoi je commence. Et j'ai commencé, et finalement, ça a quelque chose à voir avec et mon parcours artistique, puisque c'est ce qui fait le lien, je dirais, entre ce projet éditorial et mon activité professionnelle, et ce par quoi j'ai démarré dans la vie, on peut dire. La première chose, ouais, c'était la question de la traduction. Ça a quelque chose à voir vraiment avec l'intime, une forme de sentiment d'exil permanent et donc une recherche vraiment de se dire mais à quel endroit je me sens chez moi. Mais en fait, je me sens chez moi justement en fait, en passant d'une langue à l'autre. Voilà, donc ça a été la première collection que j'ai développée.
Alors on va en parler parce que là on va entendre un peu de musique dans un instant, mais vous avez apporté quelques textes. Donc
oui,
dès qu'on aura
fait.
Entendu la musique, on va lire quelques extraits.
Parfait, très bien.
Bien, c'est Chute Libre qui aujourd'hui vient au marché de la poésie de Paris, place Saint-Sulpice. Et je recevais et je reçois tout à la fois Anas Alaïli, Léon Poirier et Françoise Elian pour pas, qui sont respectivement libraires, écrivains, poètes, éditeurs et qui illustrent physiquement et moralement aussi d'ailleurs l'intérêt de la poésie et l'intérêt et la diversité du marché de la poésie de Paris qui a lieu à partir d'aujourd'hui sous la présidence de Éric Ruff, ancien chef de la Comédie Française, enfin chef c'est pas le mot qu'il faut pour le théâtre mais c'est pas grave, qui préside au marché de la poésie, preuve s'il y en a besoin que la poésie est est quelque chose qui se parle, qui se dit et que donc quelqu'un du théâtre a plaisir à préjuger et présider ce grand marché de la poésie qui est une des plus importantes scènes poétiques françaises aujourd'hui. Il y a énormément de gens, plus de 50 000 personnes qui viennent au cours de ce grand week-end où il va faire chaud d'ailleurs, 5 jours de marché. Je ne sais combien, 500 ou 400 éditeurs et 400 ou 500 poètes qui sont là, qu'on peut rencontrer dans les allées du marché où l'entrée est petite mais l'âme grande. Voilà. Et on va écouter quelques textes publiés par Françoise Elian des éditions Tango Girafe et je vous passe la parole pour présenter le petit extrait que vous allez lire.
Je vais vous lire un extrait des Sismographies du Manque de Myriam Suchet, publié dans notre collection Trans, le voyage en langue natale. Donc Trans est une collection qui joue sur les expériences de traduction. Ici, vous avez en page de gauche des lignes esquissées à tâtons jour après nuit dans de petits carnets. Et en page de droite, une tentative de traduction. Donc là, je vous lis ce qui se passe en page de droite au niveau de la sismographie numéro 24. Traduire, c'est mener la même exploration à travers un milieu différent. Les lignes s'agencent en lettres, les traces forment des mots. Ne pas prétendre réduire l'incompréhension, ni franchir la barre de l'illisible. Plutôt cheminer avec, c'est-à-dire tout contre. Frottement et porosité de la membrane frontière.
Merci. Vous avez aussi publié Federico Garcia Lorca en édition bilingue,
oui,
pour illustrer justement l'intérêt, oui, que vous avez pour la traduction. Et ça s'appelle Viviane vient,
oui,
hein, le texte.
Tout à fait.
Et moi, je propose que vous le lisiez en espagnol et moi, je vais le lire en français d'abord.
Très bien.
Ça serait bien. Ma solitude sans repos, les petits yeux de mon corps, les grands yeux de mon cheval ne se ferment pas la nuit, ni ne regarde de l'autre côté où doucement s'éloigne un rêve de 13 bateaux. Mais tels les écuyers, sans sommeil, rudes et soignés, mes yeux regardent un or fait de métros et de rochers, là où mon corps sans veine consulte des jeux de cartes glacées. Federico García Lorca.
Et la version andalouse avec un léger accent français. Mi soledad sin descanso. Ojos chicos de mi cuerpo y grandes de mi caballo no se cierran por la noche ni miran al otro lado donde se aleja tranquilo un sueño de 13 barcos, sino que limpios y duros, escuderos desvelados, mis ojos miran un norte de metales y penascos donde mi cuerpo sin venas consultan a ipes helados.
Merci. Alors, c'est extraordinaire de publier García Lorca, quand même. C'est pas donné à tout le monde, j'allais dire. À tout éditeur, tout au moins.
Ça a été une rencontre extraordinaire qui s'est faite, pareil, toujours à travers l'irrépressible. C'est quelque chose qui s'est passé un jour où j'étais au MUCEM et j'ai rencontré ce texte et je me suis mise frénétiquement à commencer à traduire la version originale. J'ai rencontré le nom propre de Preciosa, qui est donc présente dans le second poème du recueil, et je me suis dit non, je préfère Viviane. Et c'est comme ça que ça a démarré et ça a été vraiment l'acte fondateur, je dirais, de ce projet de traduction. Et j'ai vraiment souhaité retraverser ce Romancero Gitano, donc qui est l'œuvre la plus connue de Lorca, à travers un désir d'accès à cette Andalousie intérieure qui est dépeinte, en venant réadapter les noms propres. Donc voilà, c'était vraiment à travers ça pour.
Et alors, il n'y a que les éditeurs qui parlent comme ça. Vous dites. J'étais au MUCEM, j'ai rencontré un texte. Nous autres normaux, on regarde les tableaux, on rencontre un texte. C'est beau d'ailleurs, mais c'est ça qu'on va rencontrer justement au marché de la poésie de Paris, des gens qui rencontrent des textes et puis qui décident de les publier, de les traduire d'abord, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que la traduction c'est vraiment une réécriture, une recréation des textes et c'est très très important. D'ailleurs, l'écriture simple est déjà une traduction. Alors, la traduction, c'est double peine, en quelque sorte. Et donc, voilà. Mais merci beaucoup, Françoise. Il y a aussi un texte de Juliette Riedler. On va voir si on a le temps de le lire après, « Vieille petite fille ». Mais qu'est-ce que vous pensez des ateliers de lecture et d'écriture? Parce que vous voyez, le marché de la poésie organise beaucoup de choses, et entre autres, il organise des ateliers de lecture et d'écriture avec des adultes, avec des gens qui ont des difficultés de santé, etc. Est-ce que c'est une pratique que vous autant dire, je pose la question à tout le monde, que vous, auquel vous souscrivez, que qui vous intéresse? Comment ça se passe, le rapport aux ateliers d'écriture pour vous? Françoise, allez-y.
Oui. J'ai renoué contact avec l'écriture à la suite de mon démarrage dans ma vie professionnelle à travers des ateliers d'écriture, justement. Et je trouve que c'est un excellent moyen de contact ou de recontact avec une pratique qu'on oublie souvent par les aléas de la vie. Et je trouve que c'est vraiment par la pratique un excellent moyen de pouvoir permettre à toutes et tous de redécouvrir très souvent une activité, une passion qui a été oubliée.
Et vous, Léon Poirier, dans votre librairie, on organise des ateliers d'écriture ou pas du tout?
On organise assez peu d'ateliers d'écriture, même si on a pu en faire, par exemple, pour la jeunesse. On a une partie jeunesse, mais on est plutôt sur des rencontres, des choses comme ça, plutôt sur la discussion qu'à proprement le geste d'écrire. Bien que la discussion permette régulièrement de nourrir l'écriture
oui, bien sûr.
Et la création, même généralement, chez les personnes qui viennent nous voir.
Et parce que c'est tout un art d'arriver à mener les gens qui viennent aux ateliers d'écriture, qui sont souvent des gens qui s'intéressent bien sûr à s'exprimer, mais d'aller ramener à la lecture. Parce que très souvent, il y a un mouvement d'aller-retour. Les gens ne lisent plus, ou lisent moins, ou lisent pas comme... ils ont envie d'écrire, ils ont envie de s'exprimer. Ils vont dans des ateliers d'écriture, et très souvent, ce mouvement-là les ramène et à l'écriture pour eux, et à la lecture en plus général, parce qu'on va aller regarder ce que font les autres.
Oui, bien sûr.
Écriture.
C'est vrai que pour avoir fait quelques ateliers d'écriture et en avoir suivi, c'est vrai que finalement, il y a tout un travail de l'intervenant ou des intervenants qui est proprement celui-ci, de justement choisir des textes sources ou au moins d'inspiration, proposer des pratiques différentes qui vont justement essayer de personnaliser l'accès à l'écriture et de faire quelque chose de vraiment proprement singulier.
Absolument, et c'est très original, mais c'est un travail très au petit point, quoi. C'est un travail très d'investissement personnel dans le don à l'autre, et c'est toujours facile. Et ce que fait aussi le marché de la poésie, puisqu'on est là quand même pour en parler, c'est des activités en direction des publics scolaires, et entre autres, ils soutiennent ce qui se passe au lycée Racine à Paris, qui est organisé par Pierre Drogy, qui est un professeur de lettres et poète remarquable d'ailleurs. C'est des rencontres autour de poètes contemporains, c'est-à-dire que le lycée Racine, en la personne de Pierre Drogy, invite trois ou quatre poètes d'aujourd'hui à lire leurs textes dans les classes avec les élèves, et après il y a une espèce de rencontre générale avec tous les parents, les proviseurs, toute la hiérarchie et les élèves. Et c'est extrêmement très intéressant, très enrichissant. Et contrairement à ce qu'on croit, la poésie contemporaine est très bien reçue par les jeunes gens entre 15 et 17 ans, qui sont friands d'une poésie qui s'adresse aux difficultés du monde d'aujourd'hui, ou aux facilités du monde. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Je le dis d'autant que moi, j'ai assisté à ces rencontres plusieurs fois. Et donc, c'est un des mérites du marché de la poésie de susciter ou de soutenir, tout au moins, ce genre d'action. Aussi des rencontres dans des centres pénitentiaires, ce qu'ils font aussi à Melun. Voilà, donc j'évoque deux, trois... ou plusieurs pistes de choses qu'ils font et qui sont organisées par Yves Boudier, qui est le président du marché de la poésie, et Vincent Gimenaud, qui est le directeur du marché, qui sont des gens qui sont extrêmement investis dans ce travail presque à l'année de faire vivre la poésie dans toutes ses formes et dans un monde très multipolaire, enfin à beaucoup d'égards, et donc d'arriver à mettre tout le monde ensemble autour d'une fontaine au pied d'une église, c'est pas facile et c'est prodigieux à voir et à assister à cela.
Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat, aussi plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'y avait pas de loi et chacun pour soi. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Bête et méchant, les deux emmerdants n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pour un pif pouf pan avec un bazooka. Ils avaient un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu. Puis le jour vena où Ubu et le roi se rencontra, twist ya ya ya. Après l'entrevue, un tout à cul, merde dit Ubu et le roi est mouru. Il avait un tout petit zizi et un grand cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et tout dodu, la mère Ubu.
Eh bien, c'est Chute Libre qui aujourd'hui s'intéresse au marché de la poésie de Paris, qui se trouve place Saint-Sulpice, qui est ouvert maintenant. Vous pouvez venir aujourd'hui, demain, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à 9h, 9h30 du soir, je crois. Ça commence vers 11h. C'est-à-dire qu'on a le temps de prendre le petit déjeuner avant de venir. Donc, marché de la poésie de Paris, où se rassemblent 500 éditeurs de poésie, des centaines de poètes et de lecteurs de poésie. Aujourd'hui, je suis avec Anas Anlaili, poète palestinien, et la Palestine est cette année l'invitée d'honneur du marché de la poésie. Anas parle français, mais est un poète palestinien talentueux que nous recevons aujourd'hui. Léon Poirier, qui est à la fois libraire, écrivain et animateur de la revue Congre, avec qui on va parler dans un instant, et Françoise Elian, des éditions Tango Girafe.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
On va lire un petit texte d'une des autrices de Tango Girafe, qui s'appelle Juliette Riedler. Et puis après, on va discuter un peu avec Congre et avec Léon. Voilà, on y va.
Je vous lis le prologue de Fille dans Vieille Petite Fille, qui est une forme théâtrale. C'est ma grand-mère, le petit chaperon rouge. Elle a vu le loup, s'est mariée, fille de gosse, et fut mangée par lui dans une maison d'où elle fut par la suite chassée. Aujourd'hui, c'est moi, le petit chaperon rouge, qui vais lui rendre visite, terrorisée à l'idée que son histoire m'arrive, qu'elle se répète comme les contes.
On n'est que des petits chaperons rouges dans cette famille. Ma mère a vu un loup qui s'appelait Cancer. Elle n'en est pas revenue. Ma mère a eu le cancer, l'a senti dans sa chair, et ses cendres noires et bleues furent dispersées dans la mer. Ma grand-mère a rencontré le loup au bal du village. Elle s'est rendue ivre quand il l'a rendue folle à lui faire croire qu'il savait soigner les gens. Mon grand-père était médecin. C'était facile. Mais quant à dire qu'il savait ce que cela était le soin, il y a un grand pas. Voilà. Donc, Vieille petite fille de Juliette Riedler aux éditions Tango et Girafe. On voit une image sur la couverture. C'est amusant. Il y a un petit chaperon rouge en rouge et un loup en loup.
Exactement. Voilà. C'est justement ce que propose le théâtre, finalement. C'est l'illusion d'optique et la possibilité de sortir des contes et de leurs formes toutes tracées. Voilà. Voilà, c'était le geste d'écriture proposé par Juliette Riedler, l'autrice.
Très bien, merci. Et donc, Léon Poirier, vous êtes libraire chez Chan,
oui.
Boulevard Montparnasse, oui. Et vous êtes écrivain aussi, et vous animez une revue que vous avez créée, avec d'autres, je suppose, parce qu'on est toujours
on est rarement seul.
On est rarement seul, qui est Congre et qui est présente au marché de la poésie, la revue.
Oui, alors il se trouve qu'effectivement, le fait d'avoir plusieurs casquettes me permet d'associer toutes ces activités. Avec la librairie Chan, il y a un stand qui est là depuis les 42 années du marché de la poésie et qui se trouve aussi accueillir divers éditeurs, diverses revues également qui n'ont pas de stand par ailleurs et qui viennent donc présenter leur travail sur notre stand. Et donc à cette occasion, je peux aussi présenter ma propre revue que je co-dirige avec Bastien Ferry, qui lui aussi est poète. Et en fait, Congre, à l'origine, c'est un projet qui n'est pas vraiment éditorial. C'est plutôt un projet de rencontre, plutôt organique, humain, autour de l'actualité de la poésie et même... Je vais oser un gros mot, mais même d'une possibilité d'avant-garde en ce moment. Et donc, le principe à l'origine était de faire des rencontres donc dans la librairie à partir de 22h et qui, en général, durent toute la nuit jusqu'à 5h du matin. On avait commencé plutôt fort puisqu'on en faisait une par semaine. Après, quand on a commencé à travailler la matière du livre, maintenant on n'en fait plus qu'une toutes les deux semaines.
Ce qui est quand même... Toujours 5 heures du matin
ou... Oui, ça peut être 4 heures parfois, ou 6 heures.
C'est pas mal, quand il y en a beaucoup, c'est très fatigant.
C'est fatigant, mais c'est aussi un rythme qu'on s'impose, parce qu'il y a eu aussi une nécessité de justement faire un pas de côté, que l'engagement physique réponde à l'engagement intellectuel, et à la foi qu'on essaie de développer dans la poésie, qui, je pense, est, malgré toutes les écritures et tous les styles différents qui sont dans la revue et dans le groupe, parce que d'ailleurs tous ne sont pas dans la revue, il y a plein de gens qui viennent nous voir et qui ne sont pas forcément dans la revue, et bien malgré cette diversité-là, on arrive quand même à s'unir autour de cette notion de foi et de...
Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette nuit magnétique ?
Alors pendant ces nuits magnétiques, le principe est assez simple en fait... Il s'agit donc déjà de se retrouver de manière amicale, on boit des coups, on a un cocktail fétiche qui s'appelle le Zinzolin, qui nous a été enseigné par Christian Locou, le typographe qui fait la...
voilà. Il est venu à ce micro.
C'est vrai. Et bon, donc tout le monde le connaît. donc voilà, il y a cet aspect festif, mais à part ça, c'est effectivement un moment de... d'échange, mais aussi de travail, parce que le principe est de projeter les textes et les œuvres aussi, parce qu'il n'y a pas que des textes d'ailleurs, il y a de la musique, il y a de la performance, on a fait de la photo, il y a des choses un peu diverses quand même. Donc on projette pendant la lecture, ce qui permet effectivement d'avoir un support visuel et de pouvoir vraiment parler des textes et d'avoir une vraie discussion esthétique. On n'est pas sur simplement profiter des textes, c'est le cas, mais il y a une dimension quand même de travail derrière et vraiment de pousser plus loin, ce qui fait qu'on lit beaucoup d'inédits évidemment. Il y a très peu de choses publiées, elles le seront souvent après, mais voilà, c'est aussi un laboratoire. J'aime pas trop le mot, mais en même temps, ça ressemble un peu à ça.
Oui, les revues par nature, c'est très souvent ça. Hein.
Absolument, absolument. Ouais. Là, ça se fait beaucoup par la discussion. Je pense qu'on a une manière d'éditer et de publier qui est assez lente, je dirais. On produit peu de livres, c'est souvent des textes assez courts, mais parce que ils ont vraiment pris le temps de mûrir, et c'est un vrai choix que de les publier, et souvent il y a même un aspect temporel.
Vous avez un texte avec vous ?
Oui, j'en ai.
Pour en entendre quelques extraits.
Oui, absolument. Alors il se trouve que à l'occasion du marché de la poésie, Congre, alors c'est pas la revue, mais on fait des petits livres aussi. On a commencé par ça, plutôt des formats livres pauvres, livres d'artistes, ce genre de choses. Et donc il se trouve que là nous en publions un qui va sortir demain normalement, parce que j'ai un jour de retard parce que la nuit aussi je relis des livres donc je vais vous lire un
de 6h du matin
exactement, c'est ça, c'est la tranche qui me manque. Je vais vous lire donc un extrait d'un petit livre qui s'appelle Complexe de la forêt par Evan Antiome, et qui fait partie d'une collection que nous avons appelée Feutre. Ce sont des proses poétiques. L'âge de monter aux arbres est passé. Avec lui, l'évidence. C'est l'heure de marcher. Je sais lire, c'est-à-dire, j'ai appris. Je peux dormir maintenant. La voix unique est partie se tarir dans son Dieu. Je ne sais plus désormais lequel. cette science divine, commune à tous, j'en touche insensiblement le bout. Elle n'a pas la hauteur d'un arbre. J'entends leur manière apprise de répondre présent, aberrante de mourir. Parfois, un geste erratique et désespéré, auquel on ne s'attendait pas, déjoue la leçon. Et c'est un Dieu perdu entre les lignes, à jamais. Mes rêves se sont faits aux bornes du monde, je n'ai plus l'idée folle de la musique. Tout est mes effectifs, je compte.
Merci. Mais vous voyez, ce qui est magnifique, je trouve, c'est que on parle de poésie, littérature, on dit de modernité, etc. Mais qu'au moment où on se met, vous mettez en l'occurrence, à lire le texte, c'est le texte qui est roi. Voilà.
Bien sûr.
Et c'est ça.
Oui, oui. C'est même tout le principe de Kong, c'est justement qu'il y ait une écoute générale et que, voilà, on a beau s'amuser, etc. Mais la lecture du texte, ou même de l'œuvre, hein, généralement, provoque le silence général et l'écoute.
Voilà, et ça c'est merveilleux, et ouais. Ça c'est un moment presque sacré. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'être venus soutenir le marché de la poésie de Paris qui a lieu donc maintenant, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, tous les jours, sur la place Saint-Sulpice. Merci Françoise Elian et aux éditions Tango Girafe. Merci Anna Salaïli.
Merci à toi
d'être venu parler de tes collègues palestiniens et de ton œuvre, merci. De votre œuvre, pardon.
Merci pour l'invitation.
Et merci Léon Poirier de la librairie Chan de venir parler de Congre et de l'enthousiasme de tous les congressistes.
Je dire, du congruent, il y en a plein. Les congridés, souvent.
Les congridés. Voilà, autour de. Et je suis livré, ravi de vous avoir reçu. Merci.
C'était Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Vous écoutez Aligre FM 93.1.